Caillou dans la chaussure, bonjour. À propos d'enfance, aujourd'hui, la rubrique livre se présente en lecture, l'épouvante, l'émerveillement, un texte de Béatrix Beck, illustré par Gaëlle Davrinch, l'occasion de faire un petit zoom sur les éditions du Chemin de Fer. Suivra la rubrique du Petit Cinéma de Photokino, qui propose la boutique des Pandas pour la séance du 5 mai au Cinéma Les Variétés avec Nathalie Guimard. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marie-Dominique. Et oui, la boutique des Pandas, c'est un programme de trois films d'animation chinois pour les tout-petits aussi.
Merci, à tout à l'heure. En dernière partie d'émission, un spectacle jeune public, Le Globe, mis en scène par Thierry Bédard, qui sera avec nous pour nous raconter son approche géopolitique du monde, ce qu'il propose à la réflexion pour les enfants dès 8 ans. Un spectacle original et singulier programmé par le théâtre Massalia et qui soulève donc la question: peut-on tout raconter, ou plutôt, le théâtre peut-il tout raconter aux enfants ? Affectionnons les albums jeunesse dans cette rubrique livre dont les textes tricotent avec les images d'artistes. Et cette émission se veut aborder le propos de l'enfance, d'explorer l'enfance qui la compose, l'enfance en nous. Alors il existe une maison d'édition qui n'est pas du tout en littérature jeunesse, mais elle sélectionne des textes d'auteurs ayant déjà publié. Elle s'appelle les Éditions du Chemin de Fer, maison d'édition qui a été créée en décembre 2004 et qui publie donc des ouvrages à deux voix, issus d'une rencontre inédite entre un auteur et un artiste. L'objectif de cette maison d'édition, c'est de laisser le champ libre à toutes les expressions contemporaines de la représentation. Je cite une note de l'éditeur, et d'investir l'espace laissé vacant entre les mots et l'imaginaire pour renouveler la tradition du livre illustré. Donc le livre illustré à destination des adultes. Alors ce sont des textes courts, des fictions, des nouvelles, et qui sont donc écrits par des auteurs déjà ayant déjà publié. Par exemple, on trouve au catalogue Arnaud Catherine, Annie Saumon, grande spécialiste de la nouvelle, Éric Pessan avec une écriture que j'aime beaucoup, Dominique Ménard aussi. Et ce sont des gens qui explore beaucoup l'enfance. Alors tous les textes ne sont pas à propos d'enfance. À noter quand même, juste avant d'enchaîner sur un texte, les objets, l'objet livre est mignon tout plein. En fait, ce sont des objets d'une très jolie facture. C'est au format de poche. Et les artistes qui collaborent donc avec les auteurs des textes, donc ce ne sont pas des illustrateurs, ce sont des peintres, des dessinateurs. Et du coup, c'est pour eux une pratique artistique qui ne relève pas de l'illustration. Ils sont source de propositions dans cette aventure. C'est pour eux d'ailleurs une expérience nouvelle. Voilà. Donc, cette maison d'édition, les éditions du Chemin de Fer, dans les derniers titres parus, il y en a un qui s'appelle « L'épouvante, l'émerveillement », qui est un texte de Béatrix Beck, vu par, donc pas illustré, mais vu par Gaëlle Davrinch. Et dans ce texte-là, Béatrix Beck emprunte la voix de Pamela, une enfant, pour effectuer son retour en littérature, puisque Béatrix Beck est une auteure déjà qui a beaucoup de textes, de livres à son actif et qui a eu le Grand Prix de littérature de l'Académie française en 97 pour l'ensemble de son œuvre. Elle n'est pas très très connue aujourd'hui et pourtant c'est sa particularité, c'est qu'elle a fait de sa vie le matériau de ses livres essentiellement. Et l'épouvante, l'émerveillement, c'est encore un de ses textes inspirés de son existence, de ses souvenirs de l'enfance et de sa fille et de l'observation de sa petite fille. Gaëlle Davrinch qui donc a proposé des images, c'est un artiste un peu atypique et qui en fait propose des images avec enjouées, légères, donc c'est de la peinture et qui emprunte aux traits de l'enfance, voilà. Et donc on dirait que ce sont des enfants qui ont dessiné dans ce livre-là. Donc ça illustre quelque part le propos, vous allez en entendre un court extrait, mais aussi des interprétations bien sûr de l'artiste. Voilà, alors L'épouvante, l'émerveillement, un texte de Béatrix Beck, vu par Gaëlle Davrinch aux éditions du Chemin de Fer. De 2 mois à 13 ans, Pamela se raconte à voix haute. Sous la plume de Béatrix Beck, souvent cocasse, parfois tragique, la fillette, sa mère et sa grand-mère dressent un portrait déroutant de la féminité.
Radio Grenouille.
3 ans. Retire-la, retire-la. Mais c'est une coccinelle, Pamela, elle ne peut pas te faire de mal. Ouh, retire-la. Voilà, mets-la loin, pas qu'elle me touche. Pourquoi ? Je la connais pas. Vous pourriez faire connaissance ? Non, non. Mais pourquoi ? Elle veut marcher sur moi. Je veux pas qu'on marche sur moi. Trois ans et demi. Qui a fait ça ? Qui a fait moi ? C'est moi ? Toi ? Oui. Avant, tu étais dans mon ventre. Tu dis ça pour rire. Non, c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Pourquoi j'étais allée dans ton ventre ? Tu n'y es pas allée, c'est là que tu as commencé à vivre. Alors comment je faisais pour vivre quand il n'y avait pas encore toi ? Mais tu ne vivais pas, tu n'existais pas. Comment tu pouvais être ma mère si j'existais pas ? Je n'étais pas ta mère. Tu étais rien ? Si, j'étais Palmyre de Vriesse. Et moi, j'étais Pamela Windglass. Non, mon oiseau, tu n'étais pas. Je m'appelais peut-être pas encore comme ça, mais j'attendais. Tu attendais quoi ? Que tu me donnes un nom. Tu crois ? Oui, je me rappelle. Je te regardais et tu ne me voyais pas. Pourquoi je ne te voyais pas ? J'étais pas encore ton enfant, mais je savais que ça arriverait. 4 ans. C'est un clown ? Oui. Je veux pas être clown. Mais tu ne vas pas être clown, mon trésor. Si le monsieur vient me prendre, vous direz non, naturellement. Sois tranquille. 4 ans. Ours Roland, éléphant Georges, singe Stéphane, vous êtes des clowns. Il faut pas avoir peur, vous êtes des jolis clowns. Personne va vous faire de mal. Vous allez toujours rester avec maman clown. Moi, je suis le monsieur du cirque. On va nourrir les lions avec des beefsteaks sur des grands bâtons en fer. On va pas tomber. On dormira dans une jolie roulotte automobile. Votre maman va vous raconter une histoire. Le petit poussé a tué toutes les filles de l'ogre, mais pas vraiment. Après, elles ont revi et elles se sont mariées avec le petit poussé et ses frères. Et l'ogre, c'était pas un vrai ogre. Il mangeait pas les gens, il avait pas faim. Mon ours dort, mon éléphant dort, mon singe dort. Je me suis donné du mal pour les endormir. Maintenant, je suis bien contente, bien tranquille. 4 ans. Quand il y avait la guerre, est-ce que tu te mettais à la fenêtre pour la regarder passer ? Non. Pourquoi ? La guerre ne se passe pas comme ça. Elle se passe comment alors ? Ce n'est pas un défilé. C'est quoi alors ? On a faim, on a froid, on a peur, on a mal, on est blessé, on est tué. Mais quand les autres nous ont tués, nous, on peut les tuer. On ne peut pas si on est mort. Toi, t'es pas morte ? Non. Moi non plus, je suis pas morte. Toi non plus. Il faut faire bien attention, Palmyre. C'est ta fille ? Oui, il y a des grandes personnes qui n'ont pas d'enfants. Oui. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas de grandes personnes? Ben, ça ne se peut pas. Il faut des grandes personnes pour faire les enfants. Mais comment ils font? Palmyre t'a dit que les enfants grandissaient dans le ventre de leur mère. Les autres aussi? Comment ça les autres? Les autres enfants, ils étaient aussi dans le ventre de leur mère? Bien sûr, tu croyais que c'était seulement toi? Palmyre a dit seulement pour moi. Tu croyais qu'ils naissaient comment les autres? Je croyais que c'était des enfants d'hôpital. Tu as été sage avec l'étudiant? Oui, il m'a plu. Il t'a plu? Ah oui, je l'ai tapé et il m'a pas tapé. Pourquoi l'as-tu tapé? Ben, pour voir s'il me taperait. Et s'il t'avait tapé? Ben, je l'aurais plus tapé. Si tous les enfants qu'il garde sont comme toi... Il aimait bien que je le tape. Il m'a dit « démon aux yeux bleus ». Démon, c'est quoi? Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. C'est vrai. Pourquoi ils disent comme si ça existait? Parce qu'avant, les gens croyaient que ça existait. Quand j'étais petite, je croyais ça. Non, pas toi, mais les gens d'autrefois, il y a longtemps. Toi, tu croyais ça? Non, pas moi, mais des gens avant moi. Je les connais? Non, ils sont morts. Je les connais pas. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Pourquoi je connais pas les gens qui sont morts? Parce qu'ils ne sont plus là. Et ils sont où? Nulle part. Comment on peut être nulle part? Bah, si je souffle sur une allumette, la flamme s'éteint. Il n'y en a plus. Elle est nulle part. C'est tout. Moi, je veux pas qu'on me souffle. Oui, chérie, range tes jouets. Toi, tu veux bien qu'on te souffle? Oui, je veux bien. Tu seras pas triste? Ben, non, pas triste. Mets l'éléphant dans son berceau. Tu vas mourir bientôt? Je ne sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu ranges cet éléphant? Dors, mon éléphant, mon enfant. Ferme tes beaux petits yeux d'éléphant. Maman, je peux pas. J'ai pas de paupières. Ça fait rien, mon trésor. Je vais fermer tes jolis rideaux blancs. Maman, le jour passe à travers. Tais-toi et dors, Georges, ou bien je te soufflerai. S'il te plaît, raconte Blanche-Neige pour mon éléphant. Il était une... Raconte quand Blanche-Neige est dans la forêt. Blanche-Neige était perdue dans la forêt. Elle n'était pas perdue. Elle croyait qu'elle était perdue. Elle croyait pas ça. Elle croyait quoi? Elle croyait rien, elle savait pas. Les animaux sont arrivés. Pourquoi les animaux sont arrivés? Ils ont entendu Blanche-Neige pleurer. Elle pleurait pas. Tu vois, je pleure pas, je suis grande. Les animaux passaient par là. Ils pouvaient pas tous passer par là. Blanche-Neige les a appelés. Toi, tu es une sorcière, n'est-ce pas, grand-mère? Mais non, voyons, je ne suis pas une sorcière. D'abord, les sorcières n'existent pas. Oui, mais si les sorcières existaient, tu serais une sorcière? Absolument pas. Pourquoi? Arrête de faire la bête, Pamela. Tu vois bien, tu es une sorcière.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
C'était donc un texte, L'épouvante, l'émerveillement de Béatrix Beck, vu par Gaëlle Davrinch aux éditions du Chemin de Fer. Donc, caractéristique de cette maison d'édition, c'est d'associer des auteurs et des artistes. Pour terminer cette rubrique livre, on peut enchaîner avec une autre maison d'édition aussi qu'on affectionne, Esperluette Nathalie, avec une nouveauté, un très beau livre grand format qui associe aussi texte et images d'artistes, Nathalie.
Oui, alors c'est l'ouvrage qui s'appelle Souffle, dans la collection hors format d'Esperluette, dont on avait déjà donc présenté, comme tu l'as dit, plusieurs ouvrages, puisqu'on apprécie également cette maison d'édition pour sa qualité d'ouvrages. Et alors même si Souffle, le livre dont on a un bel exemplaire sous les yeux, est l'ouvrage d'un seul homme, un jeune homme, Stéphane Ebner. C'est un livre qui parle de cet intervalle infime où le lecteur reprend son souffle et tourne la page. C'est comme un cahier, c'est un ouvrage au format cahier, comme les grands cahiers qu'on peut avoir à l'école. c'est comme un cahier dans lequel il y a des dessins et puis quelques mots qui parlent de ce souffle qui, il dit au lecteur, patiente un peu que je recouse. Quand je bégaye, un son tourne en rond sur mes lèvres qui papillonnent. Puis sur une double page, ensuite, nous allons avoir une peinture, des peintures qui évoquent un rythme, un souffle, une respiration justement. Donc un ouvrage plein de spontanéité, de fraîcheur, de délicatesse, peut-être dû aussi à l'âge de ce jeune auteur, qui expérimente justement ses recherches concernant la narration et, et le rapport entre le texte et l'image, et aussi l'espace hors du livre. Voilà. Par ailleurs, Esperluette, un peu comme les éditions
du Chemin de Fer,
a de nombreux ouvrages qui offrent une rencontre entre un auteur de texte et un artiste.
Mais la différence entre ces deux maisons d'édition, et justement c'est ce que disent les éditeurs des éditions du Chemin de Fer, c'est que le plus souvent, des livres d'images comme ça sont catalogués ou en tout cas repérés sur les tables des libraires ou dans les bibliothèques dans le secteur jeunesse. Ce qui n'est pas le cas des éditions du Chemin de Fer. Là, ça s'adresse à des adultes puisque ce sont des nouvelles, des textes courts.
Mais en fait, c'est la même chose pour Esperluette. J'ai fait beaucoup de nouvelles aussi et des ouvrages plus adultes d'ailleurs.
Oui.
Mais pas que. Enfin voilà, un bel ouvrage dont on avait envie de parler puisque on avait envie de parler de deux autres livres récemment parus.
Alors là, c'est pour faire le lien un petit peu avec des auteurs qu'on affectionne, par exemple juste parce que Nathalie, tu connais très bien Renaud Perrin, et ensuite on va parler de d'Aline Naon qu'on a accueilli aussi dans cette émission. Alors Renaud Perrin, son dernier titre, Les cerveaux lents des cerfs volants. Un livre très, très surprenant et qui joue avec les mots.
Oui, alors Renaud Perrin, illustrateur qui habite à Marseille, fait partie de l'atelier du Bénoir, vient d'éditer ce livre aux éditions Thierry Magnier. Et c'est un hommage à Raymond Roussel. Alors dans ce livre, vous allez trouver des belles doubles pages réalisées avec sa technique du papier découpé. Ça ne se voit pas, donc je le précise. C'est une technique très fine, avec une harmonie de couleurs et des jeux, effectivement, sur le sens des sons, on va dire. Raymond Roussel, pourquoi ? Pourquoi un hommage à Raymond Roussel ? Ben, c'était un poète, un romancier, qui fait partie de ceux qui ont inspiré des mouvements comme l'Oulipo, qui ont fait partie du mouvement des surréalistes, un précurseur du nouveau roman. Raymond Roussel jouait notamment avec les sens, avec le sens des mots, et à sa façon, Renaud Perrin a essayé d'inventer des phrases homophones, c'est-à-dire des phrases qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment et n'ont donc pas le même sens. Un petit exemple. Les pirates de mer veillent. Les pirates de merveille. Alors, je ne sais pas si ça se voit quand je le dis.
Ça s'entend. Un tout petit peu.
Un petit peu.
En prenant des respirations entre les mots.
Alors, si je décris cette double page... À ma gauche, j'ai trois pirates, effectivement, qui veillent à leur droite, qui veillent sur leur droite. Et à la droite de la page, on a deux pies qui sont en train d'essayer d'attraper deux perles, deux belles perles au creux d'huîtres. Et c'est les pirates qui les chassent. Donc, effectivement, elles vont rater ces deux merveilles. Et il y a un personnage qu'on retrouve de page en page, c'est Raymond Roussel lui-même, qui se balade d'une double page à l'autre. Très élégant, Raymond Roussel, avec son beau chapeau, légèrement mou. Et si je peux peut-être citer deux autres, alors j'avais remarqué cette double page-là. La noisette adorée. Donc adorée par des écureuils, ébahis par cette noisette géante, la noisette adorée, l'âne noie s'est adorée. Et là, on voit un âne sur une barque en train d'essayer de cacher dans l'eau des tas d'or. Voilà, il faut le voir pour le croire. Je vous invite.
Exactement. Donc un livre cocasse et incongru aux éditions Thierry Magnier, un livre de Renaud Perrin.
Oui.
Alors une autre nouveauté, Alina On, on l'a reçue aussi dans cette émission, Nathalie, et son dernier titre, ça s'appelle Les Ciseaux Verts.
Les Ciseaux Verts, c'est chez Mango Jeunesse. Alors Alina On, effectivement, on l'avait déjà invitée. Elle a édité notamment deux livres très beaux chez Memo, qui s'appelaient Le fil à la pâte et L'hippopotame. Et cette fois-ci, Les Ciseaux Verts utilisent la même technique, enfin presque, je ne veux pas tout vous révéler, une technique très minutieuse qu'Alina On tient de son expérience du cinéma d'animation. Elle travaille sur un banc titre avec des photographies superposées, enfin des hectares positif, transparent, qui laisse passer la lumière. Donc elle peut superposer comme ça plusieurs couches et donner cette profondeur dans l'image, cette impression de collage un peu étrange et inventer des paysages irréels. Et elle aussi, dans Les Ciseaux Verts, elle joue avec le langage. Les mots se ressemblent étrangement, comme par exemple les ciseaux verts. Mais où sont passés les ciseaux vers d'Adèle, Adèle qui est le personnage principal. Bon, là aussi, il faut ouvrir l'ouvrage, mais en tout cas, un livre dont elle est ravie elle-même, Alina On, pour la qualité de son impression. Donc, allez le découvrir en librairie.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
Et enfin, ben pour terminer, on a reçu aussi Betty Bonne, souvenez-vous, à propos de son ouvrage Le Facteur, qui nous replongeait à nouveau dans un univers montagnard au sein de sa petite cabane. Et Le Facteur, ce personnage Ali, était déjà un personnage rencontré dans l'œuvre de Betty Bonne, notamment dans son ouvrage La Nuit aux éditions du Rouergue. Ce titre était épuisé. Je voulais tout simplement vous annoncer que les éditions du Rouergue ont décidé de le réimprimer et qu'il est à nouveau disponible. C'était important de le savoir car ces deux livres-là, La Nuit et Le Facteur, vont très très bien ensemble.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linge sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans.
Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal, poilu comme une moisissure, s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter, brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto da fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit, ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. J'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans. À voix basse, qu'il me fasse oublier tous mes chagrins, qu'il susurre tout murmure des toujours et des demain, qu'il m'embrasse, qu'il m'enlace.
Et tout de suite, on retrouve le petit cinéma de Photokino. Petit cinéma, c'est un rendez-vous proposé par Photokino chaque premier mercredi du mois à 10h au cinéma Les Variétés à Marseille. Un rendez-vous pour les petits et les grands avec des films d'hier et d'aujourd'hui de tous les pays. Prochain rendez-vous mercredi 5 mai 2010 avec
La boutique des pandas.
Partons en Chine. La boutique des pandas, c'est un programme de 3 très beaux films d'animation. 3 films courts réalisés entre 1979 et 1985 dans les studios d'art de Shanghai. Les 3 réalisateurs ont utilisé 3 procédés différents, inspirés par les arts traditionnels chinois, à la manière des estampes ou du théâtre d'ombre.
Les décors et personnages sont faits d'encre et de délicates touches de peinture ou peints et découpés dans du papier, puis minutieusement articulés. Un programme conseillé pour tous et surtout dès le plus jeune âge.
Mesdames et messieurs, venez vous faire coiffer. Satisfaction garantie.
L'écureuil coiffeur est le titre du premier film du programme, réalisé par Pu Jiaxiang en 1985. Le premier client de notre coiffeur est un bouc qui aimerait se faire boucler.
Voyez comme mes boucles sont belles.
Fort de son succès avec son premier client, notre coiffeur expérimente les boucles sur tous ses nouveaux clients. Le renard, le lion, le singe et même sur le hérisson et la tortue.
Mais pourquoi ne sont-ils pas contents?
On se le demande. Dans ce film, le décor et les animaux naissent de quelques traits bien choisis, tracés au pinceau, à l'encre, et de simples touches de couleurs vives. Un procédé qui donne au film une légèreté et une beauté graphique remarquables.
Le hérisson et la pastèque.
Les personnages principaux de ce deuxième film sont une maman hérisson et sa fille. La petite doit apprendre à cueillir les fruits avec ses piquants. Attention, un hérisson ne doit absolument pas cueillir avec ses mains. C'est pourtant tellement plus simple. Dans ce film plein d'humour, la cueillette va vite devenir une aventure incroyable, voire dangereuse.
Petit hérisson, que se passe-t-il?
C'est ma mère! Ma mère! Elle a été avalée par la pastèque!
Le hérisson et la pastèque a été réalisé en 1979 par Wang Borong et Kan Jiaxin, avec la technique du papier découpé qui permet de simplifier l'animation considérablement. Pas besoin de redessiner le personnage au moindre changement de position. Confectionné en papier puis articulé, les hérissons, lapins et l'oiseau du film peuvent s'animer sur le décor, petit à petit, avec des pinces néanmoins, entre les prises de vue. Ça reste un travail d'orfèvre. Ces personnages rappellent ceux qui décoraient traditionnellement les fenêtres en fin d'année, silhouettes de papier ajourées aux découpes rehaussé de couleurs vives.
Vous écoutez Radio Grenouille.
Bonjour.
Bonjour, vous désirez?
Une écharpe.
Bien sûr. Je vous laisse choisir.
Le troisième film a prêté son titre au programme complet. La boutique des pandas a été réalisée en 1979 également par Chen Zuwei et Su Kekin. On trouve tout ce que l'on veut chez grand-père et petit panda. Parapluie, chapeau, pot, ballon gonflable, bassine, sac, casserole. Mais ce n'est pas évident de répondre à toutes les demandes.
Il me faut la plus longue des ceintures.
Oh, mais c'est Mademoiselle Écureuil. Vous désirez?
Je voudrais de jolies bandes.
Ah, bien.
De couleur rouge.
Ah, bien.
De petite taille, bien sûr, vous comprenez?
Et quand les clients ne trouvent pas ce qu'ils veulent tout de suite, ils ne sont pas contents du tout.
Du calme, nous allons trouver une solution.
Oui, ne paniquons pas.
Je suis désolé, nous n'avons pas vos articles en magasin. Mais nous allons faire le maximum pour vous satisfaire. Après tout, le client est roi. Vous désirez une écharpe?
Oui, la plus longue possible.
Et pour vous, ce sera un masque?
Absolument. Extrêmement grand.
Quant à vous, ce sera une ceinture?
Oui, la plus solide possible.
Oui, la plus solide.
Ne m'oubliez pas, je voulais aussi quelque chose.
Non, je ne vous ai pas oublié. Vous vouliez...
Des bottes de couleur rouge et de petite taille.
Bien.
Petit Panda va enfourcher son vélo pour trouver les articles manquants. Premier arrêt, chez la couturière Madame la Chèvre, pour commander une écharpe assez longue pour le cou de la girafe.
Je sois de retour au magasin à 5 heures et j'ai encore des achats à faire à la fabrique de masques.
Mais c'est très loin d'ici. Pars maintenant, tu prendras l'écharpe à ton retour.
Bien que ce dernier film utilise également la technique du papier articulé, les personnages et décors sont peints à l'aquarelle, dans des teintes plus douces.
Le petit cinéma.
Le studio d'animation de Shanghai, en chinois littéralement Studio de cinéma de Beaux-Arts de Shanghai, a été créé dans les années 1930. Les techniques utilisées par ce studio au cours du XXe siècle sont le dessin animé traditionnel, l'animation en volume, mais également, sous la direction du réalisateur Te Wei, la peinture traditionnelle chinoise, le lavis. Comme dans le film Impression de montagne d'eau, dont nous écoutons actuellement un extrait. Te Wei utilise les techniques, mais aussi les sujets des peintures traditionnelles. La contemplation de la nature, le rapport entre la nature et les hommes. Les studios d'art de Shanghai ont également créé le personnage qui reste toujours le plus célèbre de l'animation chinoise. Sun Wukong. Le roi singe, dont nous avons déjà pu voir à Marseille le long métrage en 2006 « Le roi des singes bouleverse le palais céleste », réalisé en 1964 par Wan Leiming, un des deux célèbres frères jumeaux Wan, réalisateur des premiers films d'animation chinois. De nos jours, le studio utilise également l'animation numérique. Il existe d'autres programmes de courts-métrages d'animation issus des studios d'art de Shanghai. Vous en avez peut-être vu. Impression de montagne et d'eau, bien sûr, mais aussi Malin comme un singe, Le général Fanfaron, Trois moines et autres histoires. L'atelier papiers animés qui précédera à 9h le programme La boutique des pandas proposera aux tout petits de réaliser des hérissons, lapins ou pandas en papier découpé et articulé. qui pourront s'animer dans un paysage réalisé par nos soins en s'inspirant du film Le Hérisson et la Pastèque. Bien que déjà complet, vous pourrez néanmoins venir à la fin de la séance découvrir comment ont été animés les personnages des films.
Un caillou dans la chaussure.
Prochain rendez-vous en juin avec Les Vacances de Monsieur Hulot.
Alors nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Bédard aujourd'hui, metteur en scène et plus particulièrement autour du spectacle qui s'intitule Le Globe, à voir à partir de 8 ans, du 18 au, 10, au 21 mai au Théâtre Massalia à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. Donc c'est une création de l'année 2010 et Thierry Bédard est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous rencontrer et de vous découvrir parce que lorsque j'ai pris connaissance de l'existence de ce spectacle, de ce très joli mot déjà, le globe, qui peut supposer que c'est quelque chose d'ambitieux, de rond, de généreux, et que j'ai découvert que le thème de ce spectacle, c'était la géopolitique. Alors là, effectivement, ma curiosité a été complètement attisée parce que la première représentation qui me vient à l'esprit, Thierry Bédard, c'est que la géopolitique, c'est une affaire d'adultes. Alors je me pose la question de est-ce que vous êtes parti d'un constat particulier? Est-ce que vous avez vous-même des affinités avec la géopolitique?
Oui, c'est une affaire d'adultes, effectivement, mais et étonnamment, personne ne s'intéresse à ce que disent les scientifiques qui sont dans cette histoire liée à la géopolitique, c'est-à-dire qui font de la prospective sur les années à venir, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans notre 20e siècle. Mm-hmm. Alors comme les adultes ne s'intéressent pas à cette affaire-là, moi je préférais tout de suite plutôt en discuter avec les enfants, c'est beaucoup plus passionnant.
Oui. Et alors, donc vous partez d'un travail à partir de cartes, de planisphères, vous avez une activité de collectionneur aussi. Ah,
moi personnellement, oui. Oui, je suis assez passionné par tout ce qui est carte, planisphère, globe terrestre, etc. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais ce qui est vraiment très très amusant, c'est quand même, oui, d'expliquer la géopolitique comme science, comme discipline à des enfants. La géopolitique, c'est une affaire simple, très simple. C'est comment l'homme s'organise par rapport à son territoire, et donc par rapport au territoire qui sont autour de lui. Voilà. Donc ça donne des choses assez amusantes quand on commence à s'y intéresser, parce qu'effectivement la géopolitique traite beaucoup des conflits entre les hommes, puisque semble-t-il l'homme ne se satisfait jamais de l'endroit où il est.
Voilà. Oui, parce que vivre ensemble, c'est une histoire locale de conflits et de paix, ou des deux, ou des deux tricotés ensemble. Mais voilà. Et donc, en fait, c'est une. Vous aviez envie de mettre en relief ça, ce contenu-là, c'est comment les hommes s'organisent par rapport à ce vivre ensemble.
Comment ils s'organisent? Oui, avec ce vivre ensemble, ça n'a pas l'air de fonctionner très très bien. On s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, l'Occident n'a pas l'air de s'entendre très très bien avec le reste du monde. Je veux dire, on invente des frontières que l'on ferme, on exclut l'autre. Enfin, je veux dire, il y a toute une activité là qui de nouveau est très très inquiétante d'une certaine manière. Les personnes qui s'intéressent à la géopolitique, en particulier l'école française, l'école dit en fait que le 21e siècle sera probablement plus violent que le 20e siècle. Donc c'est une chose que l'on peut quand même réfléchir, quoi, d'une certaine manière. Voilà.
Donc alors du coup, si vous pensez via le théâtre montrer l'ordre et le désordre du monde aux enfants, avec cette perspective que vous venez d'annoncer plutôt pessimiste, voire angoissante, comment est-ce que vous arrivez donc à monter un spectacle qui peut attiser la sensibilité des enfants, la réflexion, sans les ennuyer, sans les angoisser? Quel parti pris vous avez eu pour monter ce spectacle-là?
C'est-à-dire que pour expliquer, le spectacle est fait en deux parties. Il y a une première partie qui est d'expliquer le concept. Alors ça, c'est assez amusant à expliquer quand même comment ça se fait que les gens se tapent dessus, d'une certaine manière. Pour expliquer cette chose, on a affaire en fait à une spécialiste de la géopolitique qui est tout à fait sérieuse et très très calée, très carrée, etc. Oui. Mais elle a la malchance d'être assistée par une personne qui lui aussi d'ailleurs est tout aussi savant, mais enfin qui a la caractéristique d'être très très maladroit. Donc en fait à peu près tout ce qu'il s'organise comme démonstration, tous les matériels dont on a besoin, globe terrestre, etc. En fait, rien ne marche vraiment. Je veux dire, s'il y a une échelle pour grimper en haut de l'échelle et montrer sur un globe terrestre où se trouve le pôle Nord, par exemple, il va tomber de l'échelle, quoi. Enfin, je simplifie. Mais donc cette personne a beaucoup de mal en fait à expliquer les problèmes des hommes entre eux. Elle-même a des problèmes de géopolitique avec son propre voisin.
D'accord. Déjà à deux en couple, c'est difficile.
C'est dur. Ça ne marche pas du tout.
Donc je crois comprendre que vous avez du coup c'est humoristique.
Vu la réaction des enfants, c'est même presque pire que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est impossible comment ces adultes s'organisent pour raconter des choses sérieuses. Mais ceci dit, c'est l'histoire même de la géopolitique qui est assez passionnante, puisqu'on explique comment les hommes au néolithique organisaient leur territoire pour se protéger des animaux, puis surtout pour se protéger des autres. Donc évidemment, quand on bascule vers la préhistoire, ça donne une toute autre affaire. Voilà. Et puis ensuite, ces personnages énoncent bien les guerres et tous les conflits dans le monde actuellement avec beaucoup de précision, mais ils sont très très vite débordés en fait par l'énonciation de tous ces millions de gens qui sont en train de se battre, de pas vouloir vivre en paix d'une certaine manière. De ne pas trouver les bonnes solutions et souvent de ne pas vouloir les chercher, mais ça on ne sait pas pourquoi, ça a l'air d'être une affaire très très humaine.
Oui. Je ne sais pas.
Dans un deuxième temps, après avoir expliqué le concept, on fait de la géopolitique appliquée, tout à fait actuelle, pour expliquer très très sérieusement quelles seront les causes des conflits et des guerres à venir. Voilà. Alors c'est arriver à raconter tout ça en s'amusant. Alors ça c'est une autre paire de manches, mais enfin semble-t-il on arrive à faire que 250 enfants se lèvent en hurlant de joie, mais ça je sais pas ce qui se passe. Voilà.
Donc là ça fait deux fois tout de même que vous notez une très très bonne réception du public, du jeune public.
Mais il a été créé en février, donc on tourne depuis, on arrivera avec plus de 60 représentations à Marseille, donc on a quand même une assez bonne solidité tant qu'à cet objet. Ce qui est très drôle dans ce spectacle, c'est, semble-t-il, que les enfants ont beaucoup de questions à poser aux adultes après. Mmh. Et par contre, les adultes qui voient ce spectacle sont, eux, totalement désemparés et totalement désespérés de ce qui est raconté à ces pauvres enfants, quoi. Voilà.
Ah oui. Donc là, vous pointez vraiment la différence de réception entre les adultes, beaucoup plus réaliste, finalement, et plus angoissante.
C'est les adultes qui ne sont pas réalistes. C'est les adultes qui vivent dans un monde avec un bandeau sur les yeux et le coton dans les oreilles. Mmh. Il se trouve que les enfants, surtout entre 8 et 12 ans, c'est vraiment le moment où ils ont envie de prendre possession du monde, de comprendre ce monde bien au-delà de leur monde assez serré, en quelque sorte.
Oui, de son immédiateté, en fait. Ils ont besoin de se projeter dans l'avenir, eux aussi. Donc, du coup, les questions sont tout à fait vives.
Tout à fait. Et de penser le monde bien au-delà de la vie serrée que l'on peut avoir dans une famille, dans un quartier, etc. Mmh.
Après, et d'un point de vue égocentré, en fait. Pardon.
Après, ça se resserre un peu. C'est-à-dire, on recommence à devenir franco-français, quoi. C'est un peu pénible. L'hexagone est ce que je dis souvent, c'est une forme géométrique beaucoup moins passionnante que le rond de la Terre.
Que le reste du monde.
Voilà.
Mmh. Donc s'il y a un seul message, un seul propos, c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit, c'est la confrontation des différents points de vue, de s'enrichir de ces différents points de vue pour mieux comprendre la diversité du monde.
Tout à fait. Mais une diversité qui malheureusement est assez...
Oui, sans idéaliser, mais...
Dans laquelle perce la violence, sans cesse. Mmh. Mais voilà, je ne sais pas si le 21e siècle sera plus violent que le 20e. Mais c'est une affaire très très importante parce que ce sont nos enfants qui en 2020, 2040, etc. auront à gérer
des conséquences.
Probablement des crises dont on n'a actuellement pas le modèle. On n'a pas la modélisation de ces crises, en fait. Effectivement, les déplacements de population qui seront obligatoires dans quelques années, du fait de la recherche des approvisionnements, de la montée des eaux dans les deltas, etc., seront des causes de migration énormes. Donc on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à gérer 2,5 millions de gens qui sont dans le Sud-Soudan, en train de crever. Personne ne sait comment on va pouvoir gérer 20 millions de personnes qui vont se déplacer. C'est une chose qui n'a pas encore de modèle. Voilà, donc on a intérêt à y réfléchir parce que sinon, ça va plutôt être très très difficile à traiter.
Il va falloir faire preuve d'inventivité.
Voilà.
Et de capacité à remettre en question les modèles déjà éprouvés.
Oui, ce que les gens qui pratiquent la géopolitique font tous les jours.
D'accord, d'accord. Bon, et vous vous en êtes inspiré.
Mais il y a en France des personnes exceptionnelles, comme Yves Lacoste en particulier, qui est connu maintenant du grand public. Il y a aussi Michel Fouché, qui est un scientifique de renommée mondiale. Enfin, c'est étonnamment... On ne fait pas trop attention à ces gens qui travaillent et qui sont en train de nous dire,
nous alerter.
Faites attention, le monde n'est pas tout à fait en ordre. Voilà.
Donc c'est un spectacle, le Globe, qui a lieu du 18 au 21 mai à la Friche de la Belle de Mai. Et ce spectacle-là, comme on l'a évoqué, comme on a pu l'entendre en filigrane, il soulève la question, le théâtre peut-il tout dire aux enfants? Donc les rencontres théâtrales et chorégraphiques d'enfants, l'Office central de la coopération à l'école, en partenariat avec le Théâtre Massalia, organise un temps d'échange et de discussion ouvert au public le mercredi 19 mai de 18h à 21h, en présence d'artistes et de théoriciens, donc du monde de la culture et de l'éducation, pour échanger autour de cette question, dont vous, Thierry Bédard, donc vous serez présent à cette rencontre-là pour en débattre.
Oui. J'espère bien qu'on peut tout dire aux enfants.
Oui, on peut. Je suis entièrement d'accord avec vous. On peut tout dire aux enfants, mais peut-être que la question, c'est comment tout dire aux enfants ? Me semble-t-il. Bon, alors ceci était donc un message aux curieux, aux parents, aux enseignants, bibliothécaires, à venir échanger autour de cette très très intéressante question et à venir voir le spectacle. Pour tout renseignement, composez le 04 95 04 95 70. Thierry Bédard, je vous remercie beaucoup.
Eh bien, au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Et de rire à propos de ce globe.
Voilà. Ben, j'y viendrai très volontiers. Merci, au revoir.
Au revoir.
À noter aussi que le Globe sera également en tournée au pôle jeune public à la Maison des Communies au Revers des Eaux, à côté de Toulon, le mardi 11 mai à 19h30 et le mercredi 12 mai à 15h.
Un caillou dans la chaussure.
Pour terminer cette émission, encore une idée de sortie. Les rencontres de l'illustration à Marseille, très noires, les 6 et 7 mai 2010, à la bibliothèque départementale à vocation régionale L'Alcazar, pour avoir tous les détails, des tables rondes, débats, ateliers, des films d'animation et des expositions. L'invité d'honneur est Lorenzo Mattotti, en compagnie d'autres dessinateurs, Michel Galvin, Émilie Boyard, Thomas Azuelos, Mathilde Chen, Marion Mousse, les éditions Même Pas Mal et j'en passe. Voilà, donc essentiellement en ce qui concerne l'exposition, Nathalie, tu avais envie de signaler la présence aussi, ne l'ai pas nommée exprès, la présence de
Renaud Perrin. Voilà. Vous pourrez retrouver ses cerfs-volants des cerfs-volants ou son crocodile automate qui croque Odile Automate, puisqu'il exposera les originaux donc, de ce livre édité chez Thierry Magnier, mais également d'autres images extraites de ses films d'animation, puisque Renaud Perrin fait aussi des films d'animation que l'on a pu déjà voir à Marseille, notamment le film d'Evo Ico, et puis aussi des tirages, des gravures, puisque Renaud fait aussi des gravures, publiées par qui, quand, quoi. Voilà, donc ne ratez pas ça, l'exposition c'est du 27 avril au 22 mai.
Merci Nathalie. Un caillou dans la chaussure touche à sa fin. Merci à Sébastien Gély qui nous guide à la technique, Nathalie Guimard pour les images et bien plus. Vous pouvez podcaster l'émission sur la page Un caillou dans la chaussure sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Prochain rendez-vous le mercredi 26 mai. À bientôt.
À bientôt.